Bonjour à tous, mon nom est Samuel, accompagné de
Jonathan.
À l'agenda aujourd'hui, on parle de PSPP et du lancement de sa campagne. On parle un petit peu de Frédéric Bastien et du lancement de sa campagne aussi. On parle du français non existant de Peter McKay. Puis on parle de la course à la chefferie du PLQ qui bizarrement ne lève pas.
On parlait du lancement de PSPP.
Ben oui, regarde, le lancement de PSPP. Écoute, je pense qu'on l'avait bien dit lorsqu'on y était. Ça faisait longtemps là, qu'on n'avait pas eu ce sentiment-là, un sentiment vraiment de pur nationalisme. Souverainiste, là, surtout, en fait. Là. C'est plus que du nationalisme, c'est de la souveraineté à son état pur.
Ben, c'est la première fois de mon vivant que je vois une assemblée.
Ben déjà,
en personne,
c'est
que ben oui. Pour un lancement d'une chefferie, parce que tu sais, en Abitibi, c'est pas que vous nous oubliez, mais c'est juste que c'est tellement loin que personne ne veut se trimballer jusque-là pour faire une assemblée d'ouverture. Mais c'est quand même rare, je pourrais dire, qu'un politicien a su me donner un sentiment comme ça d'une personne qui est prêt à foncer à travers un mur pour ses convictions. Normalement, on sent toujours qu'il y a un petit peu de carriérisme, des choses comme ça. Ah, il y a un petit peu d'ambition personnelle ici, là, quand même. Là, c'est, je veux devenir premier ministre. C'est pas rien, on peut mettre ça sur son CV. PSPP, quand on l'écoute parler, c'est plus... Je veux mettre l'indépendance sur la table, je veux faire un pays, puis qui m'aime me suivre, puis les autres, au diable. Ça finit là.
Il se fait reprocher, par contre, en ce moment, dans les médias. Bon, nous, péquistes que nous sommes, on comprend ses motivations, mais dans les médias... Il se fait souvent reprocher que, bon, à sa première course à la chefferie en 2016, oui, en 2016, il n'était pas preneur, ou plutôt n'était pas partisan du référendum dans un premier mandat. J'ai l'impression que qu'est-ce qui l'a peut-être motivé à changer d'avis, c'était vraiment la dynamique actuelle du Québec, le fait que, bon, la CAQ est au pouvoir.
Très populaire.
Très, très populaire, on l'a bien vu au dernier sondage, là, 42%. Donc,
on va parler de ces sondages plus tard, d'ailleurs.
Effectivement. Alors, on voit bien que le nationalisme québécois n'est pas mort à proprement parler, bon, malgré le fait qu'effectivement... Bon, comment je pourrais dire ça? Donc, il doit se développer. Il doit foncer. Et il doit se rendre compte, je parle toujours du nationalisme quand je dis il, et il doit se rendre compte. Il ne peut pas arriver à terme dans le Canada. Et j'ai l'impression que Paul Saint-Pierre Plamondon, ce qu'il a essayé de faire avec son lancement de campagne, c'était de dire, bon, ben regardez, on va voir après les quatre prochaines, ben maintenant les trois, deux ans et demi qui arrivent.
Oui.
C'est ça. Donc, on va voir où est-ce que les Québécois vont en être. Moi, je vous propose cette vision-là, cette approche-là, qui est la suite logique du gouvernement de la Coalition Avenir Québec. Moi, c'est un peu comme ça que je le vois.
Moi, j'avais une autre perspective qui était plus... En 2016, il y avait Martine Ouellet à côté de lui qui était... Bon, c'était difficile d'être plus indépendantiste dès la première journée qu'elle. Donc, ça a été probablement difficile pour lui de se démarquer avec cette position-là. D'autre part, il avait lu le terrain, comme il l'avait dit à son assemblée, comme étant l'élection de 2016, c'était une grosse élection de contestation des libéraux. C'était qui peut sortir les libéraux. Donc, ça donnait pas grand-chose d'arriver aux Québécois avec un projet d'indépendance que les libéraux auraient juste pu... continuellement tourner autour, comme ils avaient fait avec Pauline Marois, au risque de se retrouver encore avec 4 ans de règne libéral. Donc, de ce côté-là, peut-être qu'ils avaient vu la stratégie comme étant un petit peu plus saine, de dire qu'on mettait le référendum de côté, un petit peu comme ils avaient fait. Mais par contre, là, aujourd'hui, pour quelle raison valable est-ce qu'il y aurait pour lui de pas viser un référendum dans un premier mandat? J'en vois pas, parce qu'honnêtement, quand même qu'il est élu chef, les premières élections, je suis sceptique qu'il peut gagner un gouvernement majoritaire. Minoritaire même, je suis sceptique, parce que la CAQ est vraiment populaire. Et donc là, ça te donne un 3-4 ans encore de préparation, de construction, d'éducation, de pédagogie, qui font que quand tu arrives à ton premier mandat, si le premier mandat il y a, et que les gens te donnent un mandat majoritaire, ben ça fait déjà 6 ans qu'ils en entendent parler, ça fait déjà 6 ans que tu as pu tenter le coup, que même si l'option n'est pas à 50% dans 6 ans, elle n'aurait pas monté plus que ça de toute façon. La seule façon qu'elle peut monter ou descendre, c'est pendant un référendum où les enjeux sont bien réels et où là, les gens voient vraiment là, il y a des vrais débats de société. Mm. Là, c'est que ça, concernant les médias, parce que les gens sont, ont pas le choix de prendre une position.
Il y a, ben, il y a clairement aussi un manque, là, en ce moment, du moins, au niveau de la question de l'indépendance. Au niveau de la propagande qu'on en fait, autant du, au niveau du Parti québécois que chez Québec solidaire, si on considère qu'ils sont souverainistes.
Eux, ils se considèrent souverainistes, donc on va leur donner le bénéfice du doute.
Effectivement, on leur donne le bénéfice du doute, et je crois que c'est important, mais je reviens à l'idée de la propagande, et j'aime le fait que tu dises, bon, advenant que bon PSPP remporte la course à la chefferie, risque pas nécessairement de remporter, même minoritaire, les prochaines élections. Donc, ça leur donne 6 ans pour faire cette éducation-là, comme tu l'as très bien dit.
Oui, parce que quand ils vont arriver à la fin de ces 6 ans-là, ils vont avoir probablement encore la CAQ, et là, la CAQ va avoir l'usure du pouvoir. Et là, dépendamment des résultats du PLQ dans les élections d'avant, mettons qu'ils ont un autre résultat catastrophique, parce que on va en parler plus tard, ça aussi, mais en ce moment, ça ne s'enligne pas pour être une résurrection merveilleuse de la part du PLQ. Si ils ont une autre mauvaise élection, puis que, admettons, ils ont encore un autre changement de chef, d'autres instabilités, et là, ça rouvre la porte vraiment pour le PQ, puis là, ça affaiblit encore plus l'option fédéraliste, non nationaliste.
C'est certain. Mais quand même, penses-tu pas qu'il y a cette pédagogie-là doit se faire sentir dans les rues? Penses-tu pas qu'elle doit être présente sur les campus? Pas juste à l'Assemblée nationale ou sur Facebook, vraiment sur le terrain. Je te donne un exemple, c'est des collègues de l'Outaouais qui me rapportaient cela. Dans les années 90 et même 2000, en Outaouais, le Parti québécois organisait, jadis, il y a une vingtaine d'années maintenant, des semaines de l'indépendance, un peu comme on a ici à l'Université Laval. Mm-hmm. Mais c'était pendant, bon, quelques jours... le PQ affichait des affiches de la campagne du oui de 95 un peu partout dans Gatineau pour faire la promotion justement de cette souveraineté en Outaouais. Puis c'était des barbecues en temps et lieu, c'était des rassemblements de 400 personnes et plus. On invitait des députés. Il y avait une ambiance chaleureuse qui était valorisée par la question de l'indépendance et ça fonctionnait. Remettre ça sur la table aujourd'hui, surtout quand on voit PSPP, un jeune dynamique comme on l'a vu, moi je pense personnellement que c'est une excellente idée et ça doit se faire.
Il y a la pédagogie de l'indépendance qui doit se faire effectivement ailleurs qu'à l'Assemblée nationale. Il faut que les médias, on en parle aussi. Ça prend des entrevues dans les balados, sur les émissions de radio, à la télé. Il faut que les gens en entendent parler. Les écoles doivent être visées. C'est sûr que l'université, les cégeps, tout ça, c'est un terreau fertile pour ça. Ça a toujours été. Le milieu artistique aussi pourrait peut-être commencer à reprendre un peu de poil de la bête du côté de l'identité québécoise. Parce que ça fait plusieurs années qu'on n'a pas eu notre... on n'a pas vraiment trouvé notre successeur, M. Vigneault, M. Charlevoix, tout ça. C'est... Il n'y en a pas eu. Peut-être aussi, ben, ça coïncide avec le fait que l'option souverainiste, on n'en a pas entendu parler. Donc là, c'est l'œuf ou la poule. Est-ce que c'est le manque d'artistes qui fait qu'on n'a pas entendu parler de souveraineté ou c'est ce que le manque de souveraineté qui fait qu'on a un manque d'artistes? C'est un débat que vous pourrez avoir, que moi j'aurais pas, parce qu'à un moment donné, on a autre chose à faire que ça. Mais c'est sûr qu'à un certain point, PSPP, s'il est élu chef, a cette espèce d'énergie, cette espèce de charisme, cette compétence qui vient avec ses... son expérience professionnelle, son expérience académique, quand même diplômé en droit, c'est pas rien. Puis il est quand même assez, on le sent qu'il est, il est très sécure dans son discours. Il n'y a pas d'hésitation. Il sait où est-ce qu'il s'en va. Il ose parler des sujets tabous. Ça le fait même pas, ça le fait pas frémir pantoute. Quand il a parlé de multiculturalisme, de ghettoisation ou whatever,
incroyable.
Il a dit ça. Il y avait des gens de partout dans la pièce, des minorités culturelles, comme... minorités visibles, aucun malaise.
Il disait ça comment? Donc c'est le multiculturalisme canadien
est une machine à ghettoiser les minorités. Les minorités.
Mais imagine dire, mais c'est du genre. C'est puissant quand même l'homme comme parole.
Le citer à mauvais escient, mais c'est très puissant. Moi j'avais souvent tendance à dire que le multiculturalisme était un outil de balkanisation qui réduisait l'identité nationale en une identité subnationale. C'est-à-dire où est-ce que ton identité première n'était plus celle canadienne ou québécoise dans le cas, mais bien celle de, comme aux États-Unis avec les Afro-Américains, avec les Chinois-Américains, des choses comme ça, qui se sentent Chinois et Américains plutôt que d'être Américains et Chinois. Alors là, le Canada avait un petit peu cette tendance-là, on le voyait avec le multiculturalisme, notamment, mettons, les communautés Sikhs à Toronto, qui sont bien connues comme étant des communautés Sikhs, justement, pas des communautés canadiennes ou des choses comme ça, mais ils sont Canadiens, ils se voient Canadiens, tout ça, mais on voit qu'il y a un gros accent sur leur culture avant d'être arrivé au Canada. Ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi. C'est juste que on voit beaucoup de repli. C'est-à-dire quand les gens arrivent, ils sont insécures. C'est normal. On se catapulte dans un autre pays. Vous m'envoyez en France quelque chose comme ça. Je vais chercher un restaurant avec la poutine, ça sera pas trop long, hein, parce que je vais m'ennuyer. Sauf que là, le problème, c'est on dirait qu'avec le multiculturalisme canadien, c'est que ça encourage les gens à rester ensuite dans ces communautés-là, à jamais vraiment faire partie de la mosaïque canadienne, de la fondation canadienne, qui, de plus en plus, on voit des discours comme Justin Trudeau qui disait que le Canada est un État post-national, des choses comme ça. Le concept de souveraineté nationale, de frontières, tout ça s'efface de plus en plus avec ça. Et le concept de culture et de nationalité s'efface aussi. Pour un nationaliste et un souverainiste comme PSPP, c'est sûr que c'est une catastrophe, parce que c'est la pierre angulaire de sa stratégie, c'est de pouvoir dire aux Québécois, le Canada n'est pas notre pays, le Québec est différent, on parle pas la même langue, on n'a pas la même culture, on n'a pas les mêmes ambitions, on n'a pas... Si toutes ces choses-là, ces repères-là nationaux disparaissent, pour lui, il perd un angle d'attaque qui est très payant.
Ben c'est clair. C'est clair. Alors, mais c'est super intéressant. Puis c'est surtout, bon, si vous ne l'aviez pas encore compris, on était bien présents. On a eu la chance de parler avec, justement, sa directrice.
On a eu la chance de parler avec Paul directement.
Avec Paul directement. On est en train de vous préparer des choses par rapport à ça, justement. Mais bon, en temps et lieu, vous en saurez davantage. Alors, c'est bien intéressant. C'est cool.
Mais juste pour peut-être le sujet, c'est Paul, quand il fait son discours, a l'air vindicatif. On pourrait dire, on sent qu'il y a une hargne dans son discours. J'ai peur peut-être que ça lui nuise. C'est-à-dire, il va arriver sur le débat. Mettons, visualisons-nous, M. PSPP avec François Legault, le chef la chef du PLQ, et ça devrait être Manon Massé ou Gabriel Nadeau-Dubois sur le débat. Et M. Pierre Bruno qui pose une question avec sa douce voix de grippé. Et PSPP qui sort qui sort ses arguments, mais hargneux devant un public peut-être qui va le trouver trop agressif, qui va le trouver peut-être trop revendicateur. Ils vont se dire, il semble peut-être pas connecté avec moi. Moi, je suis pas aussi intense que ça. Moi, je veux peut-être un pays un jour, mais je suis pas sûr, mais je le sens pas. C'est pas viscéral comme ça. Est-ce qu'il va y avoir une déconnexion? Je me pose la question.
Peut-être un peu candide, si je peux dire.
Ben, il va manquer de candeur dans ses propos, dans le sens où il va toujours être à l'attaque.
C'est certain.
À moins qu'il réussisse à changer un petit peu son discours là, quand il s'adresse pas à des militants. Mais s'il est constamment à l'attaque comme ça, j'ai l'impression que les gens, il va peut-être avoir une certaine fatigue. Ils vont avoir un certain sentiment de ce gars-là. C'est il va être capable de prouver son point, mais une fois qu'il est au pouvoir, est-ce que c'est quelqu'un probablement qu'on veut au pouvoir avec un tempérament comme ça? Est-ce qu'on veut quelqu'un qui attaque constamment, une espèce de bulldog, ou est-ce qu'on veut quelqu'un qui est plus un peu comme M. Godreau, qui est plus timoré, plus capable de gérer ses émotions, plus rassembleur un petit peu? C'est ce que je me pose comme question, parce que veux pas, avec un discours aussi offensif que PSPP, tu vas créer des divisions, tu vas créer des gens qui vont se braquer contre toi. Dans un mouvement où on a besoin d'avoir le plus de gens possible, j'ai hâte de voir si la stratégie va être payante, parce qu'il faut que tu calcules ton coût. Est-ce que tu vas aller chercher le 20% de plus qui nous manque, ou est-ce que tu vas aller en chercher 20, mais tu vas en perdre 10 à cause de ça, t'sais? Et là, tu finis par... C'est des calculs politiques un petit peu, c'est complexe, mais... De ce côté-là, justement, c'est là que Frédéric Bastien va peut-être avoir encore plus de difficultés que PSPP. Puisque Bastien arrive, moins intense sur le souverainisme, mais côté nationalisme, lui, c'est sa campagne, c'est ça, c'est nationalisme assumé. Lui, c'est des idées plus complexes, puis des choses. Ça se traduit moins bien pour le citoyen ordinaire qui va. Il prendra pas le temps de lire le livre à Frédéric Bastien. Il prendra pas le temps d'écouter ses entrevues en format 30, 45, une heure où il peut vraiment expliquer ses choses. PSPP a cet avantage-là, où ce que lui, son explication, il peut la faire dans un discours de 3 minutes, ça se place bien à TVA Nouvelle, puis là, le citoyen va se sentir plus informé. Ça va être à voir. Mais pour Bastien, c'est tellement compliqué, c'est... Il part de loin, il n'y a pas d'organisation comme PSPP.
Ben ça, on ne sait pas. On ne sait pas, on peut être surpris, là.
Ouais, il s'est annoncé après, il a pas fait la course de 2016, ses appuis sont...
Il l'a pas fait, mais il faut pas oublier par contre que ça a été un très très proche conseiller de l'ISE par contre.
Ouais.
Mais bon, est-ce que ça l'a vraiment valu la peine? Ça, c'est un autre débat, là!
Je sais pas, tu sais, je veux dire, c'est... Dans ma tête, à moi, Frédéric Bastien, c'est un excellent candidat. Mais le problème, c'est que ses idées sont, comme je disais plus tôt, ses idées sont vraiment... Elles sont complexes, tu sais, quand il parle de coup d'État... pour la Constitution de 82.
Ah oui, mais solide.
Mais tu sors ça en entrevue à TVA, on va dire, ou à Radio-Canada, puis t'as 5 minutes pour t'expliquer. C'est une accusation lourde. Le citoyen ordinaire qui est pas pro-indépendance va se dire, mais c'est qui cette espèce d'urluberlu-là qui nous sort un coup d'État dans une société démocratique comme le Canada, tu sais?
C'est la problématique de tout bon intellectuel, j'oserais dire. Ça va être à lui de trouver la façon de vulgariser ses points. Malheureusement, peu importe, je vais dire comme toi, Sam, c'est à peu près impossible en 5 minutes de vulgariser le fameux coup d'État de 82, malgré le fait que nous avons ou allons lire son fameux livre, La Bataille de Londres, dont j'ai déjà parlé et que je vous suggère fortement la lecture.
Qui n'est pas si long que ça à lire.
Non, effectivement.
C'est 432 pages, mais c'est écrit quand même assez gros.
Ça se lit quand même bien. Mais tu sais, encore là, je veux dire, on lit ça... On regarde l'individu, bon, c'est un très grand historien, ça, il n'y a pas à redire. Mais ça va être de savoir comment il va pouvoir emporter ces points-là dans une course à la chefferie du Parti québécois et pouvoir s'imposer face à PSPP et Gaudreau. Ça va être un beau défi.
J'ai plus peur de PSPP que Gaudreau dans son cas. Gaudreau, j'ai considéré presque déjà la course comme perdue pour lui, Gaudreau. Sa déclaration sur la souveraineté contre PSPP pour revenir une semaine après puis se rallier à la souveraineté dans un premier mandat. Le fait qu'il n'y a pas contre lui, mais tu sais, M. Godreau n'a pas vraiment le charisme, selon moi, d'un premier ministre. On l'entend parler, c'est un peu drabe.
Ça reste quand même un homme d'expérience.
Oui, mais ça joue contre lui, selon moi, dans un parti qui cherche du nouveau. Ben, l'expérience, ça nous a amené...
Ah ben oui!
Je veux dire, l'expérience... Jean-François Lisée avait de l'expérience aussi, ça nous a pas sauvés. D'ailleurs, ça nous a probablement coûté très cher. Mais, côté de Frédéric Bastien, il fait son lancement le 9 février.
Oui, c'est ça.
À Montréal. Faudrait vérifier où est-ce que ça se fait, mais... C'est pas un... J'ai pas l'impression que ça va être un événement aussi gros que celui de PSPP. C'est sûr qu'il n'y a pas la notoriété de base de PSPP, c'est qu'il va falloir, lui, justement, qu'il construise cette notoriété-là. Mmh. Parce qu'il a une notoriété où, dans le milieu des indépendantistes, puis des historiens, puis tout ça, des intellectuels. Mais quand on arrive dans la population générale, Frédéric Bastien, j'en ai parlé à quelques-uns de mes amis qui sont des souverainistes, mais pas non plus des mordus de politique ou des choses comme ça. Frédéric Bastien, ça sonne une cloche parce que, tu sais, la bataille de Londres, ça a quand même été. On en a parlé beaucoup quand c'était sorti.
Ah oui.
On l'a entendu justement avec la loi 21 quand il était maître des juges de la Cour suprême et de la Cour supérieure dans l'embarras. Il s'est fait un beau coup de pub avec ça d'ailleurs, porter plainte contre les juges. Puis, c'est juste, ouais, ça me dit quelque chose, mais sans plus. C'est là, il part vraiment, c'est un avantage parce que là, il peut littéralement. Il part comme un inconnu, donc.
Ben ça, il va
première pouvoir... impression, c'est toujours important.
C'est ça, il va pouvoir se construire sa notoriété politique à partir de
il
là.
Il part de rien, tu sais. Il pourra pas se faire attacher à un scandale ou un gouvernement précédent ou quoi que ce soit. Il est blanc comme neige.
C'est vrai.
Ça lui donne cet avantage-là.
C'est certain que nous, ben, vous l'aurez compris dans ce sens, on va faire en sorte d'assister à son lancement de campagne.
Ouais.
De préférence, évidemment, avoir les bons contacts pour pouvoir vous proposer très belle entrevue en temps et lieu, effectivement. Mais on va pouvoir vous revenir sur ce lancement-là en temps et lieu, évidemment, pour savoir si nos intuitions étaient les bonnes. Mais je comprends ton point. Je veux dire, je comprends ce que tu veux dire. Mais en même temps, moi, Bastien, pour lui avoir parlé quand même à quelques reprises, veux pas, j'ai vraiment l'impression que c'est quelqu'un qui a quand même... qui a quand même un certain réseau de contacts. Oui. C'est pas... Peut-être... dans le monde du citoyen moyen, je suis d'accord avec toi que c'est peut-être, en gros guillemets, là, un no-name.
Ben, tu sais, PSPP, il va arriver mais... pour avoir ses signatures en Abitibi, ça sera pas...
Ça sera pas un défi.
Tu sais, je veux dire, Saguenay, l'Abitibi, l'Estrie, tout ça, il va y arriver. Rick Bastien, il va aller en Abitibi, en Estrie, en l'Île-de-la-Madeleine. Personne ne le connaît là-bas.
T'sais. Ben, ça va être les milieux universitaires.
Est-ce qu'il y a des militants là-bas? Je sais même pas.
Les milieux universitaires, c'est là qu'il va aller.
Probablement, mais ça prend beaucoup de signatures quand même. J'ai hâte de voir comment est-ce qu'il va faire son coup.
Je pense qu'il
va réussir. Il y a quand même beaucoup de temps pour réussir. Puis avec de l'argent, on réussit à s'acheter des bons conseillers qui, eux, savent ensuite comment aller chercher des militants très motivés. Donc ça, c'est pas si problématique
que ça. Non, c'est sûr. Mais bon, en tout cas, moi, personnellement, c'est un homme que j'apprécie beaucoup de sa capacité justement à expliquer de long en large un problème. C'est un individu qui a un passé très riche en termes de droit constitutionnel également, malgré le fait qu'il est historien de métier.
Mm-hmm. Puis, c'est un homme qui touche à beaucoup de choses.
Beaucoup. Bon, ses conférences. Je ne sais pas si tu as vu une conférence de Bastien déjà.
Non,
mais
malheureusement, j'ai pas vu de conférence.
Je te dirais que les conférences qu'il peut proposer, c'est du solide, là. Tu sais, avec des sources à la pluie, là, de A à Z, un beau PowerPoint bien riche en contenu, une voix qui porte aussi. Je te dirais, malgré le fait que, bon, disons, une conférence standard, une heure et demie, dans le gros max, si je peux dire, il est en mesure d'élaborer de façon assez large et précise là, ses points. Donc,
sûr, en une heure et demie, c'est qu'une heure, une heure et demie en politique, c'est une éternité, t'as pas ça normalement.
Non.
10 minutes au plus, peut-être, puis encore, je suis généreux, 10 minutes. Ce qui est un problème en politique, hein. D'ailleurs, c'est ce que je dénonce beaucoup, c'est la culture du, pardonnez-moi l'anglicisme, mais le soundbite, là, ça nous prend le son pour capturer l'ensemble d'une idée, ce qui est, je veux dire, c'est presque impossible. On se condamne à rester dans les idées les plus légères, les plus insouciantes, parce qu'on n'est pas capable d'aller chercher les idées les plus concrètes, celles qui vont vraiment transformer la société, parce que c'est impossible de dire on va changer la société mur à mur avec une seule phrase qui peut jouer en boucle à la TVA ou à Radio-Can. C'est impossible. Ben, écoutez, je dis que c'est impossible. Pas de quelqu'un qui va me prouver le contraire, mais moi, selon moi, c'est impossible de dire ce que Frédéric Bastien essaie de dire sans essayer de trop vulgariser, se mettre le pied dans la bouche, puis se faire accuser de généralisation, quelque chose comme ça. Parce que les gens vont l'attendre avec une brique et un fanal. M. Bastien veut réduire l'immigration, parce que selon lui, et selon plusieurs, d'ailleurs, c'est un combat qu'on mène pour la langue française, et on le perd, notamment à cause de l'immigration. Ensuite, lui veut faire des négociations constitutionnelles avec le Canada sous le prétexte justement que 82 n'était pas légitime. De ce que j'ai cru comprendre, ça semble être une espèce de tentative de LACMICH 2.0. Mais là, une fois que LACMICH 2.0 ne marchera pas, parce que selon moi, c'est impossible, après ça, on va avoir peut-être Jérémy Junot à un moment donné qui va venir nous dire que c'est très, très possible. Ben, qu'est-ce qu'on va faire après? Lui, il va aller faire ce que Robert Bourassa n'a pas fait, c'est-à-dire il va faire le référendum qui vient avec. Mais là, est-ce que les gens vont vouloir suivre M. Bastien dans une négociation constitutionnelle en se disant, est-ce qu'il va négocier de bonne foi? Ou est-ce qu'il négocie juste pour se donner un boost dans les sondages pour le référendum? Il y a tellement de choses qu'il propose qui sont complexes, qu'il ne pourra pas élargir sur tout, et il va probablement être obligé de sacrifier des sujets vraiment intéressants, comme les négociations constitutionnelles, pour focusser sur un sujet qui se vulgarise mieux, comme l'immigration.
Je vous invite, puis d'ailleurs je t'invite formellement, Sam, parce que plus que la bataille de Londres, un autre ouvrage qui est très intéressant, c'est son petit livre, Après le naufrage. Donc, après le fameux 1er octobre 2018, il a écrit ce livre dans lequel il explique un peu, bon, c'était quoi sa philosophie derrière M. Lisée et la campagne du Parti québécois. Malgré le fait que le PQ en 2018 avait, et ça c'est pas moi qui l'invente là, avait la meilleure plateforme électorale, comment se fait-il qu'on a fini avec maintenant 9 députés? Bastien l'explique dans ce livre-là, mais plus que l'expliquer, il explique un peu son point de vue, sa vision des choses. Alors j'ai un peu l'impression que ça fait quand même depuis un certain moment, donc précisément depuis 2018, qui prépare ce moment-là à se lancer dans la course à chefferie. Là.
C'est possible. T'es juste donner une dernière idée de M. Bastien. Il est contre la réforme de mode de scrutin parce que, selon lui, avec une réforme, on rend la possibilité d'un gouvernement souverainiste majoritaire, comme le PQ, hautement improbable. Mais va essayer d'expliquer ça, toi, quand ça fait 4 ans que tout le monde dit que ça prend une réforme, pas constitutionnelle, mais du mode de scrutin. Il va se faire arracher à la tête.
Ben.
Les gens vont juste avoir à dire, mais M. Bastien est contre la démocratie. Il veut empêcher les gens d'avoir plus d'influence sur le vote.
Ben,
ça va être une position ultra inconfortable.
Probablement. T'as sûrement raison. Pour être franc, t'as sûrement raison. Mais par contre, on peut relancer la balle aussi au niveau du Parti libéral du Québec.
Qui est aussi contre.
Qui sont complètement contre. Et ils s'en cachent même pas. La raison première pourquoi ils sont contre, c'est parce qu'ils savent très bien que si ça passe, ils perdent automatiquement le soutien des régions. C'est automatique.
Ouais, ben ils perdent aussi leur avantage à Montréal
qu'ils ont. Ben.
Puis à Laval.
Ben oui,
c'est ça. C'est certain qu'ils perdent un petit peu leur stratégie de. Ou de l'anglicisation des comtés les favorise énormément. Là, parce qu'il y avait une étude qui disait qu'à partir d'un certain seuil critique, les comtés tombaient automatiquement aux libéraux. Parce que la communauté anglophone et allophone vote à 85% en règle générale pour les libéraux. Alors que le vote francophone se divise en 3, 4, 5 parties. Mmh. Donc automatiquement, quand il y a plus de personnes anglophones qu'un certain seuil, on tombe sous le seuil critique. Et là, ça prend un mouvement de contestation massif comme la CAQ pour réussir à... Et même avec la CAQ a juste rentré un siège à Laval.
C'est vrai, hein? Un siège à Montréal aussi, hein?
C'était le siège où Jean-Martin Hansen se présentait.
C'était pas mal... C'était le seul,
c'était,
hein?
Ouais, c'était
Donc, c'est... En tout cas, ça pourrait être un autre sujet pour une future balado, mais le mystère Laval-Montréal, ça...
C'est pas un gros mystère suivre. Pour moi.
J'ai envie de dire.
Ouais, fait qu'en parlant d'anglo, Peter McKay est... Je suis une candidate... Je serais un candidat, tu sais, c'est...
Écoute, pour être bien franc avec toi, là, Sam, pour être bien, bien franc, là, j'ai quasiment... Non, mais
c'est pitié. C'est...
Ben, pitié, oui, mais en même temps, regardons ça d'un œil purement objectif et décentralisé de notre cadre de vie, si je peux dire. Il se présente comme candidat à la chefferie du Parti conservateur.
Ouais.
OK. Les conservateurs ont 9 députés à Québec, au Québec plutôt, je devrais dire, ben à Québec au final, presque, mais bon, passons. Alors, de façon purement légitime, est-ce que c'est réellement un problème qu'il parle pas français, le gars?
Oui, c'est vraiment un problème qu'il parle pas français, parce que historiquement, le Parti conservateur a toujours eu besoin du Québec.
Oui, oui, mais je suis d'accord avec toi, je te pitchais 5 de même, parce que, tu sais, veut pas.
Ça vient me chercher, parce que moi, le Parti conservateur, j'ai beaucoup de gens autour de moi le détestent fondamentalement.
Oui.
Moi, le Parti conservateur, je l'aime pas, mais il me fâche parce que je le vois comme étant cette espèce de grand parti-là, anciennement, les progressistes conservateurs de Mulroney, qui ont tellement fait des belles affaires. Joe Clark, et tu sais, puis après ça, t'avais Kim Campbell qui aurait pu être quelque chose de mieux que ça. Puis ils se sont effondrés monumentalement. Ils ont laissé les conservateurs de l'Ouest, les évangéliques, les infiltrés. Puis aujourd'hui, c'est juste une pâle copie de ce que c'était comme parti dans le temps. Et ça me frustre parce que tu te dis, on pourrait avoir une alternative intéressante au niveau fédéral qui reconnaîtrait un peu plus le Québec. Puis tu pourrais te dire, bon, on a besoin d'un parti au pouvoir pour faire avancer quelque chose. Le Bloc peut pas parce que le Bloc sera jamais au pouvoir. J'ai besoin de quelque chose d'un parti qui va me reconnaître quand même pour ce que je suis, un Québécois et non pas juste un simple Canadien, qui va me donner un petit peu plus de lousse dans le cadre fédéral. Ben, c'est sûr que les conservateurs, dans le temps, c'était relativement ça.
Bon, passons le fait que probablement que Blanchet, à t'avoir entendu, t'avais arraché la tête à l'instant.
Ben, mais...
On comprend ce que tu veux dire. Non, mais regarde, on va le dire comme ça. Les conservateurs, c'est un parti qui, je crois, très important pour le Canada. Si on regarde ça dans un ensemble fédéraliste, je crois que le Parti conservateur est très important pour le Canada, même encore aujourd'hui. Le fait est que... Et on en a un peu parlé dans notre balado test au final, je veux dire. Le vote conservateur est tellement peu efficace en ce moment, ils ont de la difficulté à aller chercher une base partisane, surtout surtout au Québec, ces temps-ci, j'ai presque envie de dire que un gars comme McCabe passe, qu'est-ce que tu veux que ça me fasse? Je veux dire, il va dans la logique du vote.
Mais il passera pas, tu sais, je veux dire.
Il passera pas.
Pour que McKay passe puis qu'il espère gagner ses élections, puis ça serait les premières élections de mémoire où un candidat conservateur qui parlait pas français gagnerait. Je veux dire, même Harper ou Scheer parlaient. Harper le parlait, Scheer le baragouinait un peu plus.
Oui, mais il parlait quand même.
Mais McKay, c'est vraiment, c'est rien. Là, mais c'est... À moins qu'il suive des cours intensifs perfusés sur le café 24h sur 24, il fera pas grand chose.
Mais c'est qui l'autre candidat qui se présente contre lui? Il y en a deux.
Aaron O'Toole.
O'Toole, c'est ça.
Que je ne connais pas suffisamment pour me prononcer, je sais juste qu'il est plus populiste que McKay.
Beaucoup.
Ça me fait un peu penser à Maxime Bernier, mais un peu moins sur le crack.
Pour être poli. Ouais, ok.
Parce que Maxime Bernier, depuis qu'il a pris son virage populiste, autant avant, je le trouvais comme étant, tu sais, le gars de droite un peu sympathique, un peu naïf, mais là, à cette heure, je suis comme, non, mais le gars, il est dangereux quand même, là, tu sais, je veux dire. L'environnement, non, mais c'est le soleil, tu sais. S'il va, arrive en ville, là.
Ouais.
Mais. Pour un gars comme McKay qui parle pas français, ça voudrait dire qu'il doit conserver la majorité absolue dans les trois provinces de l'Ouest, ce qui devrait pas être un problème.
Devrait pas.
Il faudrait qu'il fasse une percée en Colombie-Britannique, mais il est pour les pipelines, donc oublie ça, c'est bon. Il faudrait qu'il fasse une percée en Ontario. Ben, ils ont déjà le nord de l'Ontario, mais les conservateurs faire une percée dans la région métropolitaine de Toronto, si ça arrive, je me fais... Va être vraiment surpris.
Attends, si ça l'arrive, je veux dire...
C'est un combat entre l'NPD et
les libéraux. Advenant, je te lance ça comme ça. Advenant que, bon, dans les deux prochaines années, Ford fait un très bon travail. McKay ne pourrait-il pas profiter de cet avantage-là un peu
comme Scheer a essayé? Ça a juste coulé sa campagne parce que Ford est juste un incompétent fini.
En ce moment. Ah. Mais advenant, c'est toujours dans une perspective d'avenir. Je suis d'accord que c'est pas très scientifique l'affaire, mais je veux dire, il y a rien de joué. Là, je veux dire, on parle.
La meilleure chose qui peut arriver à McKay, c'est qu'il apprenne à parler le français. Okay. La deuxième meilleure chose qui peut lui arriver, c'est que Doug Ford souffre d'un malaise ou quelconque ou un problème familial et donc qu'il ne peut plus être premier ministre. Et qu'une personne plus compétente se présente au Parti conservateur, progressiste conservateur d'ailleurs, de l'Ontario. Et là, il pourrait se rallier avec ce leader-là. Mais le problème étant, s'il se rallie avec les progressistes conservateurs de l'Ontario, que les gars de l'Ouest trouvent mou, ben là, à ce moment-là, tu perds ta majorité peut-être, ou ta domination totale que t'as dans les trois provinces de l'Ouest, pour aller en chercher en Ontario. Est-ce que le calcul politique... est quand même complexe. Est-ce que tu t'attends à en gagner plus que tu vas en perdre? Mais là, t'as toujours le Québec qui est un no man's land pour toi, parce que
voilà.
Ça va être un miracle si tu réussis à garder trois sièges au Québec, parce que là, je peux voir Gérard Deltel survivre. Mais un gars comme Paulus, qui est déjà à 5% peut-être, le bloc est 5% derrière, son chef parle pas français, je m'excuse, mais Yves-François Blanchet va arriver dans la circonscription, ça va être un carnage.
Tu penses?
Ça sera même pas...
Non, mais... J'aime ta perspective, mais quand même, puis ce que j'ai dit au début, c'est pas négligeable dans l'idée où justement les 9 candidats, les 9 députés, pardon, du Parti conservateur sont dans la région de la capitale nationale et en Beauce. Mais ils sont, ça a toujours, ben, du moins historiquement, ça a toujours été à peu près... Ça a toujours été à peu près conservateur, là, ces régions-là. Là.
Oui, bah, t'es Lévis, donc, je veux dire, avec Steve Blaney,
ouais, ça bon, fait... Ben, c'est pas comparable, c'est sûr.
Ça, c'est un autre niveau. Peut-être que lui va rester, mais je veux dire, à Québec, peut-être que je vis dans une bulle, mais je peux pas concevoir que même à Québec, les gens se disent « Mon premier ministre parlera pas français, il va être capable de me représenter si bien que ça. » Je veux dire, à Québec, on n'a pas le problème d'anglicisation de Montréal, et quand même, ça reste un sujet qui est assez sensible à Québec.
C'est sûr. Mais il y a cette distance-là aussi. Je veux dire, veux pas, Ottawa de Québec, c'est quand même à plus de 400 km. On n'a pas nécessairement la réalité du fédéralisme de jour en jour, comme on a pu l'avoir au final en étant en Outaouais puis en Abitibi. Donc, j'ai pas l'impression que les gens de Québec ont cette même notion-là que nous l'avons en ce moment.
Mais Harper avait un lieutenant au Québec, c'était Denis Lebel.
Oui.
Là, Peter McKay, il faudrait qu'il se trouve un lieutenant plus. Là, c'est presque plus un lieutenant, c'est presque un premier ministre juste pour le Québec.
Deltel? Ben, ça serait le meilleur, là, si je peux dire. Ouais, ça serait le meilleur.
Pas que j'ai rien contre Deltel, mais c'est juste que... Est-ce qu'il y a l'étoffe pour un lieutenant plus comme ça? Parce qu'il y a des... Denis Lebel, là, tout le temps qu'il était là, connais-tu une position controversée qu'il avait vraiment pris, là? C'était un messager qui s'occupait de relayer l'information. C'était ça, sa job. C'était très bien. Il la faisait bien. Après, Denis Lebel avait le beau jeu que son patron parlait français. Quand il avait quelque chose à dire, c'était lui qui le faisait. Mais là, Gérard Deltel se retrouverait à devoir relayer les messages, les traduire, donner le pouls politique, réagir à chaud en français. Il devrait proposer les affaires. Et là, il serait presque obligé de négocier avec le Québec quand avec Peter McKay, parce que ça serait tout le temps lui l'interlocuteur. Ça devient une position insoutenable pour Deltel qui se ramasse à avoir des responsabilités.
Mais attends, là. Bon sens, attends, là, c'est intéressant ce que tu viens de dire, puis j'aimerais enrichir parce que c'est vraiment cool. Ben, cool, entre guillemets. Deltel, ben peu importe qui serait
Deltel ou peu importe.
Peu importe. On dit Deltel en ce moment, mais
ça peut être Paulus, ça peut être
Exactement. Drainé, ça peut être n'importe qui. Mettons Deltel. Il se retrouverait un peu à avoir le même rôle que Boulrissa présentement, mais plus que ça, il se retrouverait à avoir un peu le même rôle dont le Bloc se revendique, c'est-à-dire d'être le porteur du fait français au Québec, certes, mais au Canada.
Sauf que lui, il serait tout seul, alors que le Bloc, ils sont
ensemble. C'est ça. Donc, c'est vrai que plus on réfléchit à cette situation-là, plus ça devient problématique.
C'est que l'autre affaire aussi, c'est que si le Parti conservateur prend une décision qui va... contre l'opinion des Québécois, mettant un pipeline, t'as juste un seul homme à blâmer, c'est Deltel, il va se faire défoncer vers les médias.
J'avoue que...
ça le place dans cette position-là, parce que la minute que son gouverneur fait quelque chose qui n'est pas populaire au Québec, tout tombe sur Deltel en voulant dire « Ah, ben merde, Deltel, t'as pas réussi à nous défendre comme du monde. Ah, mais Deltel, t'as pas réussi à transmettre le message que c'est pas ça qu'on voulait. »
Bon, je veux dire, mettons...
C'est juste, c'est pas vrai.
Bon, non, c'est sûr. Mais advenant, mettons que, bon... McKay, advenant qu'il gagne la course et devient premier ministre. Bon, Deltel ou peu importe, devient vice-premier ministre.
Ah, quasiment,
toi. Ben, ça le serait.
Peu importe qui serait le lieutenant du Québec, deviendrait le deuxième homme le plus important du Parti conservateur. Et ce qui, ironiquement, risquerait de faire royalement suer les provinces de l'Ouest, qui là se dirait, c'est quoi l'affaire? Le Québec a 3 sièges, puis ils ont un gars comme ça délégué à eux autres. Nous autres, on en a 60 et quelques, députés, puis vous vous en sacrez nous autres plus que ça.
De là l'importance du fait français au Canada. C'est vraiment pas à négliger, hein. Je veux dire, les communautés francophones au Canada dépendent... Puis tu sais, je veux dire, il faut se rendre à l'évidence, hein. Ils dépendent beaucoup du Québec. Ou du moins du fait que le Québec est encore dans la fédération en ce moment.
Ouais.
Puis c'est correct.
Le Nouveau-Brunswick fait des beaux efforts. Ben, oui. Les communautés francophones du Nouveau-Brunswick font des beaux efforts parce que le gouvernement lui-même ne fait pas grand-chose.
Effectivement.
À part leur nuire. Les communautés francophones du Nouveau-Brunswick sont très courageuses. Sinon plus que nous, parce que nous, on a au moins l'avantage d'être la majorité de notre territoire, donc c'est plus facile. Eux, là, c'est vraiment un instinct de survie incroyable qui soit encore
présent. C'est le bon terme.
Je ne comprends même pas comment ils font. Les franco-ontariens, eux autres, j'ai du respect pour eux, mais depuis leur alliance avec les anglophones du Québec, moi, je viendrai pas en aide à eux en priorité, là. Tu sais, je vais aller voir le Nouveau-Brunswick en premier.
Je comprends ce que tu veux dire, mais, tu sais, en même temps... Puis ça, justement, ironiquement, il faut remonter à 82 et à Mitch et même Charlottetown pour bien comprendre la synergie qui s'est créée derrière ça. En étant une minorité sur leur... dans leur province, plutôt, il est logique que les Franco-Ontariens s'allaient avec les Anglo-Québécois à ce moment-là. Ça découle d'une logique. Purement...
une trahison,
non, mais interprovinciale. Maintenant, au niveau de la Fédération Générale, je suis d'accord avec toi, il y a comme une sorte de... C'est comme un peu irrationnel.
Ben, c'est mourir la main qui... C'est mordre la main qui te nourrit, parce que je veux dire... Qui est monté aux barricades, à faire des plaidoyers vibrants pour l'école, l'université francophone d'Ontario, le Bloc, le PQ, la CAQ, la communauté francophone du Nouveau-Brunswick, nous.
Ben, écoute,
puis après ça, je pense, 2 mois après, ils nous ont envoyé un poignard dans le dos en dénonçant que la loi 101, des choses comme ça n'avait pas de bon sens. Et j'en étais mauve, là, sérieusement. C'était selon moi... grosse trahison, puis je l'ai encore sur le cœur.
C'est certain que, vu comme ça, on peut pas négliger la part un peu... j'allais dire d'irresponsabilité que les Franco-Ontariens ont eu, mais c'est pas non plus ça.
C'est un choix qu'ils ont fait.
Mais... c'est un choix. Puis, je veux dire, rendu là, je crois qu'il faut en bon québécois, il faut dealer avec. Puis, ça n'empêche pas le fait.
Le voit Peter McKay qui parle pas français. Est-ce que c'est juste au Québec qu'on se dit, ouais, c'est quand même pas normal que le gars n'ait pas la deuxième langue officielle du pays.
Non, quand même pas. Là.
Ou est-ce que les Franco-Ontariens puis les Franco du Nouveau-Brunswick se disent, merde, on est vraiment pas pris au sérieux. Ou est-ce qu'ils se disent, éternellement, on est la minorité, fait qu'il n'y a pas besoin de nous pour gagner. Est-ce que c'est plus du ressentiment? Est-ce que c'est plus, on vit avec?
Sais-tu quoi? Je pense que là, ça, c'est une bonne question qu'on devrait poser au Bloc québécois, en réalité, parce que c'est eux qui sont le plus près de cette réalité-là, si je peux te dire. Donc, encore une fois, à suivre, mais on vous promet du lourd encore à ce niveau-là, je
pense. À quand des sièges du Bloc québécois en Nouveau-Brunswick et en Franco-Ontario?
Ah ben écoute, qui sait, hein? Non, mais on vous réserve ça pour un autre balado, je pense, mais ça va être une question à poser au Bloc, ça. Ça va être très intéressant de voir qu'est-ce que Blanchet a à nous proposer à ce niveau-là. Mais c'est certain que c'est un gros débat, puis écoutez, McKay s'enligne pour gagner.
On pourrait toujours avoir une surprise, quelqu'un qui se présente du champ gauche, mais comme je disais dans le balado test, les demandes financières du parti sont tellement incroyables.
200 000, tu disais,
c'est ça? C'est quelque chose comme ça, ça n'a pas de bon sens. Je veux dire, le PQ à côté, je pense que c'est 10 ou 15 000. Puis
20 000, ma
soeur. 20 000, c'est des gros max. On est 10 fois moins. Merde, 200 000, c'est de l'argent. Puis ça prend une organisation. Même Jean Charest n'a pas voulu embarquer là-dedans.
Non. C'est d'ailleurs, juste parce que c'est quand même important, je crois, de plugger deux, trois sources, je vous invite fortement à aller voir l'entrevue que M. Charest a accordée à Radio-Canada. Vous pouvez la retrouver facilement sur YouTube. Là, c'est une entrevue d'environ 30 minutes. Très, très bonne entrevue. Qu'on soit pour, qu'on soit contre, elle est quand même bien objective, alors je vous invite fortement à aller la voir.
Le PLQ qui lève pas. La course, là, ça marche pas.
Hey, écoute. Ça, mais ça, c'est, ça en est presque une farce, mais je veux dire, soyons concrets quand même. Tu sais, ils ont deux candidats. Les deux candidats, ils ont leur bon comme leur contre.
Ils sont compétents les deux.
Oui, ben bon. Après, moi, personnellement, j'ai une préférence pour Anglade. Mettons si j'étais libéral.
Moi aussi.
Mais après, je veux dire, ils ont pas de couverture médiatique. Comme le Parti québécois en a présentement.
Ce qui me surprend énormément, d'ailleurs.
Puis, ils ne semblent pas avoir de propositions plus concrètes que des agissements au niveau de l'environnement.
Puis encore, ces agissements sur l'environnement-là sont pas... J'ai pas entendu parler, mettons, d'une proposition de révolution, mettons, des transports en commun au Québec. J'ai pas entendu parler de réforme majeure de la tarification carbone ou quoi que ce soit. Ça se limite relativement juste à dire on va faire des efforts pour l'environnement, comme on faisait dans la continuité du gouvernement Couillard puis Charest, que c'était correct, tu sais, mais sans plus.
Rendu là, il va vraiment falloir que le Parti libéral se trouve. Peut-être une nouvelle. Une nouvelle tête d'affiche, oui, mais. Une nouvelle vision du Québec, une nouvelle notoriété, parce que bon, je veux dire, la CAQ leur a pris leur argument économique, comme elle a pris l'argument nationaliste du PQ. Alors, ça va être un beau défi pour le PLQ, mais le problème, c'est que, écoute, avec une base militante qui est sous le seuil des 20 000 membres, avec une...
Ce qui est très très bas. Pour ceux qui écoutent, le PQ a au moins le triple de ça. La CAQ a peut-être le double environ, ou peut-être un peu moins que le double, genre une fois et demi. Même QS a plus de membres que ça. QS qui est un parti qui est à peu près 13-12% des sondages. 11, dépendamment de où ce qu'on regarde. Un parti à 11% qui a plus de membres que le PLQ, c'est très très grave. Il y a probablement des comités au PLQ qui travaillent jour et nuit, juste à qu'est-ce qui se passe.
Ben, regarde, c'est plus que ça, c'est... Mais, tu sais, j'imagine les... exemple, les militants qui travaillent, d'une part pour Husson et d'autre part pour Anglade, la job qu'ils devraient avoir présentement à faire, à vendre des cartes de membres puis à aller chercher du financement pour leurs candidats favoris, ça devrait être monstrueux. Imagine, moi, personnellement, là, pour être bien franc, là, j'avais pas entendu parler de Cusson à part lorsque j'ai décidé moi-même d'aller me renseigner sur lui, là, tu sais. Hein? Anglade, bon, je la connaissais déjà de par...
Anglade, moi,
bon,
évidemment... Malheureusement, son introduction médiatique, pour moi, ça a été le scandale... militants libéraux qui disaient qu'ils pensaient pas qu'une femme noire pouvait être première ministre. Imagine. Ce qui était très tragique selon moi, parce que je suis pas le seul à avoir eu mon introduction médiatique de cette façon-là pour Madame Anglade. Et ça, c'est triste parce que ta première impression en politique, c'est très important, et le paraître, c'est souvent ce qu'il est. Robert Bourassa avait tendance à dire ça, un ancien du PLQ. En politique, le paraître, c'est l'être. Donc pour Dominique Anglade, le paraître, c'est ça son introduction publique. Ce qui est pas la meilleure chose. C'est pas ça que tu veux. Ça aurait été bien qu'elle aurait pu rentrer, mettons, avec un coup d'éclat en disant, moi, ma proposition, disons, je fais une théorie, on va dire, parce que pour l'environnement, on va faire la ligne rose de Valérie Plante. Nous, au PLQ, on va se placer derrière les demandes de Valérie Plante. On va faire une refondation, on va faire l'extension de la bleue, on va finir la boucle de la orange, puis on va faire la rose. Puis on va faire, tu sais, plein... Il y a du stock que tu peux faire là, pour dire... En plus, ils sont forts à Montréal. Ce serait parfait pour eux autres d'aller chercher les comtés plus francophones. Puis tu dis, ben nous, on est pour le tramway à Québec, puis pour plus de financement pour les autobus, financement pour les autobus, peut-être un train pour rentrer le Montréal-Québec. Tu sais, il y a plein de choses qui peuvent faire.
Exactement. Mais... Ben, je sais qu'à... Bon, je sais pas, Anglade ou Cusson, s'ils sont pour, évidemment, mais en Outaouais, je sais justement qu'ils sont pour l'élargissement du Rapibus ou pour que le train d'Ottawa parvienne au centre-ville d'Hull, par exemple. Donc, bon, c'est des éléments, mais...
Ils veulent élargir la 50 aussi.
Hein? Élargir la 50,
c'est dangereux pour avoir fait une campagne de poids.
Définitivement, ça n'a aucun sens. Donc, effectivement, prendre position sur des enjeux comme ceux-là, qui sont pro-environnemental ou...
En tout cas, qui ont une logique environnementale.
Une logique environnementale. Ça serait déjà plus preneur et accrocheur que qu'est-ce qu'ils proposent présentement. Non pas que c'est pas bon ce qu'ils disent, mais ça serait plus intéressant.
Il n'y a pas eu de coup d'éclat. Non, il n'y a pas eu de proposition forte jusqu'à maintenant. Celle de Cusson qui est la plus connue, c'est celle de son commissaire à l'éthique. Qui est une bonne idée, selon moi, mais tu ne gagnes pas les élections là-dessus. Mais c'est une bonne idée. Même si Dominique Anglade gagne la course à la chefferie, ce que je pense qu'il va arriver. Et elle devrait prendre l'idée de M. Cusson. Surtout pour un parti comme le PLQ qui est un petit peu attaché à la corruption, des choses comme ça, ça fait toujours un peu de bien de présenter plus blanc-blanc. Ça prend un bon détergent, comme on dit.
Puis je veux dire, veut pas, Mme Anglade, ça lui empêche absolument rien de proposer ce comité-là comme étant une motion à l'Assemblée nationale. Oui. Alors, déjà, en partant, elle peut faire ses pas, elle peut proposer d'avance.
Elle pourrait le proposer pourrait alors qu'elle est dans l'opposition. Exact. Ça pourrait être accepté par... ça pourrait être une structure au Québec ou ça peut être une structure du parti,
tout simplement. Tout à fait.
Dans les deux cas, elle peut le faire pendant qu'elle est à l'opposition.
Bon, un autre gros défi qui attend M. Cusson ou Mme Anglade, c'est évidemment d'aller reconquérir, là, littéralement, l'électorat francophone.
Ils sont à 10% en ce moment, pour ceux qui n'ont pas vu les derniers sondages.
C'est aberrant, là. C'est complètement aberrant.
C'est triste, parce que 10% du vote francophone, c'est pas beaucoup. Là. Ça fait mal. 10% du vote francophone, tu peux pas gagner des élections avec ça. Surtout pas avec la manière dont le scrutin est fait en ce moment, où est-ce que c'est par comté. Leur 10% est probablement étalé dans presque toutes les 125 circonscriptions. C'est impossible pour eux d'aller chercher quoi que ce soit. Leur vote est peu efficace. C'est un vote efficace pour survivre, parce qu'ils pourront jamais descendre en dessous d'un certain seuil critique. Mais c'est pas un vote suffisant pour dire que tu touches au pouvoir. La preuve étant, la CAQ a tellement le pouvoir, eux autres, ils ont 76 députés, ils sont intouchables. Je veux dire, ils ont une méga majorité.
Écoute, c'est du jamais vu dans l'histoire vraiment moderne du Québec. Je veux dire, même le Parti québécois, quand il a pris le pouvoir en 76, là, c'était 74 députés.
Écoute, le seul souvenir que j'ai de quelque chose de plus violent que ça, c'est le Parti libéral dans le temps qui avait juste, je pense, à l'élection en 76, 72. Non, pas 72. Oui, c'est ça, 72. La réélection de Robert Bourassa. Enfin bref, un des mandats à Robert Bourassa, ils sont rentrés, il y avait 105 sièges, je pense, puis il y en avait 100 qui était au PLQ. Putain, une affaire de fou, là. Parce qu'il y a genre 5 sièges pour l'opposition, t'es comme calique, ok?
Voyons donc.
T'sais, ça avait pas de bon sens, là. Ça, c'était une domination. C'était même pas drôle, là. Mais, tu sais, ça, c'est un cas spécial, là.
Ouais, bon, évidemment, ça a évolué, là, c'est clair, mais. Non, mais écoute, je sais pas, il va falloir qu'il y ait un gros travail de rhétorique de la part des deux candidats. Il va falloir qu'ils vendent leur idée. Il va falloir. En fait, je sais même pas. Écoute, c'est aussi pire que ça. Je sais même pas s'ils sont sur le terrain en train de faire une campagne. J'ai aucune idée.
Mais je te dirais que, pour te donner une idée à quel point que on n'en entend pas parler, j'ai des amis politisés beaucoup, mais j'en ai pas, à ma connaissance, qui sont libérales ouvertement.
Mm.
J'écoute, mettons, les engagés publics, il y a René, là, qui est un libéral, mais même lui, tu le sens que c'est... Ça a l'air d'aller fort, tu sais, ouais. c'est pas la fièvre libérale, ne s'empare pas de lui, pas plus que ça. Mais j'ai presque l'impression que pour le PLQ, ça va leur prendre un troisième candidat qui arrive du champ gauche. Même s'il gagne pas, même si c'est pas un gros candidat, au moins, ça fait les nouvelles que, quelqu'un d'autre s'est lancé vraiment en retard.
Juste pour brasser un peu la cage. Au moins,
il y a quelque chose de médiatique sur eux. Je dis souvent en blague que j'aimerais ça voir Denis Coderre débarquer au PLQ. Mais Denis Coderre au PLQ demain matin, je m'excuse, mais Dominique Anglade puis Cusson, ils font pas le poids. Là. Denis Coderre, face à peu importe qui tu mets du côté du PQ, il est capable de se défendre en débat. Puis face à François Legault, ça va être une vraie farce. Les communautés anglophones connaissent Denis Coderre, il était au PLC. Mais en plus de ça, il parle très bien anglais, il est bilingue. Il y a la notoriété parce qu'il y a quelqu'un qui était maire de Montréal, puis là, peut-être que c'est ça qui fait qu'il n'est pas au PLQ, c'est qu'il attend que le mandat de Mme Plante se termine pour se représenter. Peut-être. Mais selon moi, ça prendrait une figure publique comme ça. Parce que là, Dominique Anglade, c'est un petit peu l'ancienne garde avec Couillard, tu vois, associé à ça, je veux pas. Cusson, c'est juste un. Personne ne le connaît. Puis quand il apparaît dans les médias, il est juste pas attaché.
Mais
il est pas impressionnant. Il donne une impression de ben, je suis là, je vais présenter mes affaires.
Tu vois, il y a là le problème. Il y a une médiatisation qui se fait pas. Puis le seul temps qu'on les voit, c'est dans des moments où ils sont pas ben, à leur mieux, veux pas. Ouais. Donc c'est.
Mais même Pierre Arquin à l'Assemblée nationale, on le voit pas plus que ça. Puis c'est le chef de l'opposition.
Absolument pas. Mais non, mais écoute.
La vraie opposition en ce moment à Québec qu'on entend le plus parler, c'est Pascal Bérubé qui,
exactement ce que j'allais dire.
S'amuse à être un maître rôtisseur.
Non, mais c'est hilarant, là, je veux dire. Non, mais.
Même QS a plus d'espace médiatique.
Tu mets. On va prendre les trois oppositions, là. Tu mets Arquin, tu mets Bérubé et tu mets Mme Massé.
Ou même Gabriel
Nadeau-Dubois. Effectivement. Je me dis, mais je suis désolé, Bérubé mange les trois, là.
Ben, Gabriel et Manon prennent pas mal de place à cause notamment de Catherine Dorion. QS prend de la place à cause de Catherine Dorion.
Ouais, mais puis... c'est pas parce qu'ils prennent de la place qu'ils disent des affaires ce matin.
Ça, c'est sûr, mais je veux dire, on sent qu'ils prennent plus la job d'opposition au sérieux que le PLQ. Le PLQ a a l'air d'être encore sous le choc. Le PLQ est encore un petit peu en choc post-traumatique de l'élection. Ben, ils savent pas où aller, ils savent pas quoi dire, puis ils ont pas de point de rapport.
Non, mais je le croirais. Non, mais écoute, je veux dire... Non, mais écoute, je vais continuer dans la même ligne directrice que la tienne, je veux dire. T'as Québec solidaire qui, bon, ils sont sur à peu près toutes les plateformes, ils sont très bien médiatisés, ils disent à peu près... Ils
font des assemblées.
Écoute, ils font ce qu'il faut. T'as le Parti québécois avec Bérubé qui sont là, puis c'est très rationnel.
Congrès de refondation, exactement, il y a 4-5 candidats, dont Guy Nantel, qui apporte une visibilité.
Exactement. Puis à côté de ça, ben, t'as le Parti libéral qui est quand même, je tiens à le rappeler, l'opposition officielle, là.
Puis on n'entend pas
parler. Puis on n'entend pas parler partout.
Leurs membres baissent, ils n'ont pas l'attention médiatique, leur course à la chefferie, et là, depuis plus longtemps que celle du PQ, ouais,
tout à fait.
On voit pas d'article de journal plus que ça. Il n'y a pas d'entrevue, il y en a peut-être eu, mais là, il n'y en a pas. Comme Mario Dumont qui interview Frédéric Bastien, Richard Martineau qui interview PSPP sur Cube Radio.
Exactement.
J'ai pas vu ça passer.
Bon, ça s'est fait par contre. Pour être franc avec toi, ça s'est fait. Pas plus tard que tout à l'heure, j'ai regardé l'entrevue à TVA justement de Cusson. Là.
Okay.
J'ai fouillé vite.
J'ai pas la télé.
Ben, j'étais curieux. Non, mais tu sais, c'était sur YouTube. Là. mais il faut le chercher par soi-même,
c'est
tu
ça,
vois.
C'est pas...
C'est faut le vouloir, mais non, vraiment...
Ça, c'est grave. Si vous êtes un fan du PLQ, le fait que les gens doivent aller s'informer sur vos candidats...
C'est problématique.
C'est problématique. C'est énormément problématique, parce que surtout une course à la chefferie, c'est pas tout le Québec qui est normalement censé être... à l'écoute de ça. Mm. Mais quand vous avez juste 20 000 militants, la déconnexion entre qui est votre futur chef selon les militants versus qui devrait être le futur chef et peut-être potentiel premier ministre peut être grande. Quand le PQ met le vote des sympathisants en disant qu'on n'a pas le choix de s'ouvrir tout ça, mais que le PLQ avec 20 000 membres, c'est-à-dire trois fois moins que le PQ, lui, il l'ouvre pas à sympathisants, dis que s'il y a quelqu'un qui devrait faire ça, c'est le PLQ.
Effectivement.
Parce que eux, ils risquent d'avoir une espèce d'effet de bulle, de chambre d'écho. Parce qu'à 20 000, puis surtout que les 20 000 sont concentrés dans 2-3 régions, quand ils vont arriver aux élections, puis qu'ils ont élu, mettons, un Cusson ou un Glad, sur des affaires qui, eux, faisaient bien du sens, mais qu'ils vont arriver aux élections provinciales, puis qu'ils n'auront pas de connexion avec le Québécois moyen ou avec simplement l'électorat, ils vont se ramasser avec le même nombre de sièges, peut-être moins, peut-être un ou deux de plus, mais ça va faire mal pareil. Tu peux pas te permettre de perdre des élections de manière successive comme ça. Ils sont dans le purgatoire, franchement. Mais on va leur souhaiter que leur trio santé réussisse à trouver un remède.
À voir. Puis en espérant effectivement que... Bon, du moins que la base militante qui est demeurée au sein de ce grand parti, veut pas, il faut le dire, puisse faire un miracle là, dans les prochains mois, parce que c'est clairement... C'est presque de ça
qu'il s'agit. On espère les voir sur les campus d'université. J'aimerais vraiment ça, pour voir Dominique Anglade venir défendre ses points à l'université. J'irais la voir. Parce que sincèrement, j'entends pas assez parler d'elle, je trouve. J'entends pas assez parler de la course à chefferie.
Mais écoute, on n'entend pas parler d'eux tout court. Non. C'est un problème de fond, puis... après, à prendre ou à laisser ce que je m'apprête à dire, mais peut-être que le Parti québécois, justement, à l'heure actuelle, fait quelque chose que le PLQ ne fait pas. Il devrait peut-être prendre exemple, mais bon, je ne saurais vous dire de quoi il s'agit. Mais clairement que le PQ en ce moment, avec sa course à chefferie, fait quelque chose qui fonctionne, étant donné qu'on est médiatisé de jour en jour.
C'est surtout que ce qui est ironique, c'est que personne ne disait du PLQ que c'est un parti mort. Pourtant, l'engouement pour devenir chef de ce parti-là semble être plus bas que pour devenir chef d'un parti qui était supposé être mort.
L'ironie.
Mais bon, on va leur laisser un peu de temps. Peut-être que c'est juste parce qu'ils sont pas officiellement encore dans une course à chefferie. Peut-être que nous, au PQ... on a cette espèce de tendance-là à avoir des gros débats. Fait que même quand le débat n'est pas officiellement ouvert, ça jase. Peut-être que le PLQ attend juste que ça soit officiellement à la course. Puis là, une fois que ça va être fait, ils sont peut-être en train d'écrire des plans qui vont nous jeter à terre. Là.
Peut-être.
Enfin bref, on leur souhaite, parce que sinon, en ce moment, ça va pas bien.
J'espère que cet épisode de l'agenda vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et à aimer notre page Facebook. Et sur ce, au prochain épisode. Au revoir.